9h26 minutes. Il y a des experts qui sont réunis à Montréal, des gens qui viennent évidemment du domaine de la science pour regarder les changements climatiques. Et ça se passe ici donc du 15 au 17 novembre et ils sont les invités donc du consortium Ouranos, qui est un consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Le directeur général est avec nous, Alain Bourque. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour, monsieur Arquin.
Là, je veux pas qu'on déprime les gens, là, c'est pas ça l'objectif, mais quand même, il faut donner l'heure juste et les faits. Ce matin, je prends le devoir, là, puis on nous parle de 15 000 experts qui arrivent à la conclusion que c'est presque trop tard, ou en tout cas, et que surtout, tout ce qu'on a fait depuis 25 ans n'a pas amené des changements significatifs. C'est une bonne lecture, ça, en partant?
C'est une assez bonne lecture. C'est-à-dire, on a eu tendance à faire beaucoup de promesses, on s'est donné des cibles, et en général, on ne les a pas atteints. Le seul point qui, je crois, est positif, c'est qu'on commence à infléchir les courbes. Donc, on commence tranquillement à essayer de contrôler nos émissions de gaz à effet de serre, à tenter de, au lieu de voir une accélération dans la dégradation de l'environnement, il y a des petites courbes qui montrent que ça se dégrade un peu moins vite qu'avant. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, là.
L'image qu'on a de l'extérieur, c'est de dire, vous l'avez abordé un peu, là, il y a le discours des politiciens, principalement, la signature de traité, Kyoto, Paris. Et là, on se dit, OK, mais dans les faits, en pratique, je regardais strictement au Québec, le bilan énergétique, la consommation d'essence n'a pas diminué, au contraire, elle augmente. Les gens se tournent vers des véhicules qui consomment encore beaucoup. Bref, juste ça... La cohérence, si on veut, entre le discours puis les traités et la pratique.
Oui, puis je pense que l'un des gros problèmes que l'on a, c'est qu'effectivement, on va dans des grandes conférences internationales, on s'engage à atteindre des cibles, mais on ne fait pas redescendre ça par la suite au travers des paliers nationaux, des paliers provinciaux puis du palier municipal. Puis en bout de ligne, là, l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, elle se prend concrètement dans des choix individuels à l'échelle des ménages, par exemple. On voyait dans les médias dernièrement des idées de faire sa comptabilité carbone par famille pour voir où est-ce qu'on peut agir. C'est un petit peu plus ce genre d'initiative-là et d'action qu'il faudrait mettre de l'avant pour essayer de trouver des solutions. Nous, par exemple, dans notre événement au cours des 3 prochains jours, à partir de mercredi, l'une des nouvelles axes qu'on aborde de plus en plus, c'est qu'au lieu d'avoir simplement des scientifiques et des experts qui se rencontrent, on connecte ça avec des aménagistes, avec des ingénieurs, avec des gens terrain qui travaillent pour le monde municipal. Hier, j'étais à l'Union des producteurs agricoles pour discuter de changement climatique sur la ferme, concrètement. C'est là qu'il faut agir. Il faut agir aux échelles locales, régionales pour développer des solutions basées sur une bonne science qui vont faire des changements. Puis, ceci étant dit, tu sais, c'est sûr qu'on peut blâmer différents niveaux de gouvernement, le gouvernement du Québec, par exemple, etc. Mais au Québec, on contrôle un peu mieux nos émissions de gaz à effet de serre. Nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué d'à peu près 6 % depuis il y a quelques temps. Donc, on prend des tangentes intéressantes, sauf qu'il faut continuer, il faut amplifier les efforts pour pouvoir faire atterrir ça avec des résultats concrets.
Bon, je lisais dans le Devoir ce matin, et là, on parle au niveau de la planète, là, qu'il fallait, par exemple, faire une campagne pour réduire les naissances, pour réduire le nombre de la population, le volume de la population, pousser les gens vers un virage alimentaire différent, donc moins, plus de végétaux dans le menu. Quand on voit ça, là, on comprend que ce sont des tendances à long terme, mais est-ce que pour vous, ce sont des tendances qui sont incontournables? Autrement dit, si on continue à vivre comme on vit actuellement et avoir une population mondiale qui est en croissance, tous les efforts qu'on peut faire sont comme quoi annulés par cette tendance-là ou ces tendances-là?
Oui, alors là, c'est un petit peu plus délicat, je pense, que de commencer à parler de contrôler la population sur la planète. Là, moi, personnellement, je ne veux pas m'embarquer là-dedans.
Ben là, on parle de planning, on parle pas de. On parle d'éducation et de planning pour réduire les naissances.
Oui, c'est ça. Alors, mais donc, oui, il y a un peu de ça, mais je pense aussi qu'il y a. En fait, il y a la technologie qui va venir nous aider dans une certaine mesure, les autos électriques, consommer moins de produits pétroliers, des trucs de genre. Ça, c'est clair, ça va nous aider. Mais je pense que ce qui manque fondamentalement aussi, c'est la nécessité de trouver des modes de vie quand même assez différents. Donc, aménager nos villes de façon à favoriser le transport un peu plus mobile, l'utilisation de la bicyclette, marcher davantage. On dit souvent, en Amérique du Nord, on a un problème d'obésité, ou de bonne santé des jeunes, etc., bien, c'est clair que ça peut aussi se combiner à atteindre différents objectifs et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut changer notre comportement par rapport à notre consommation d'énergie. Et ça, honnêtement, on peut réussir à faire beaucoup. Là. On peut même se comparer à certains pays européens qui produisent beaucoup moins de gaz à effet de serre que d'autres parties de l'Amérique du Nord en utilisant d'autres stratégies de transport moins basées sur l'automobile.
Mais on est en retard sur le développement des infrastructures de transport en commun. Quand on va en Europe, par exemple, on comprend là, que ça fait longtemps que les trains existent et qu'ils ont bon, un historique plus important. Mais j'ai encore des auditeurs qui habitent, par exemple, la banlieue et qui me disent « c'est pas parce qu'on veut pas, mais il n'y a pas un accès, disons, correct au train de banlieue ou encore à l'autobus pour venir au centre-ville ».
Bien, c'est là que je pense que nos décideurs doivent faire preuve de vision moyen-long terme, puis probablement d'un peu de guts pour pouvoir justement prendre des décisions qui vont permettre d'augmenter l'offre de services de transport en commun. Là, ça me semble assez évident. Je pense que, par exemple, ce qui s'est passé à Montréal avec l'élection de Mme Plante illustre le fait que je pense que les gens en veulent de plus en plus concrètement et ils sont même prêts à supporter des politiques progressistes qui vont aller dans cette direction-là. Le défi, c'est que c'est toujours un peu le défi du changement. Hein? Mmh. Souvent, les décideurs pensent à leur mandat 3-4 ans et puis ils ne veulent pas trop brusquer de gens. Et donc, ça fait en sorte que ça l'incite à ne pas avoir une grande vision à très long terme. Moi, dans mes discussions avec les décideurs, souvent, l'un des constats, c'est comment réussir à mettre en branle des décisions, des façons de faire avec une vision long terme, tout en ayant tombé un peu de retombées à court terme pour que je puisse quand même dire qu'au cours des 4 prochaines années, j'ai fait une différence, etc. Donc, c'est assez difficile aussi, malheureusement, pour des décideurs de réussir à naviguer, à mettre en place une vision long terme, mais à réussir à faire comprendre aux gens après 4 ans qu'il y a quand même des résultats. Parce que c'est un des gros défis, par exemple, celui des changements climatiques, c'est qu'il y a une certaine urgence d'agir parce que c'est une locomotive. Tu sais, qui a pris de la vitesse, qui est très présente. Et là, on réalise qu'il faut freiner. Mais bon, on pèse sur le frein, puis ça ne freine pas tout de suite. Ça prend 2 décennies avant de... Alors, pour la majorité des gens, ça, ce n'est pas une urgence. Alors que dans les faits, le changement climatique est une urgence, même si les délais d'action se mesurent souvent en 10 ou 20 années.
Notre invité ce matin, Alain Bourque, qui est le directeur général d'Ouranos. On a eu un automne pour le moins, disons... particulier. Saison des ouragans, des températures beaucoup plus hautes qu'à l'habitude, que ce soit septembre, octobre et jusqu'à tout récemment. Est-ce que c'est un épisode météo, disons, normal et puis on va peut-être revivre des automnes l'an prochain comme on a toujours vécu, ou si c'est un signe, selon vous, d'un changement dans l'environnement?
C'est drôle parce que pendant notre prochain symposium, c'est sûr que le lien changement climatique et événements extrêmes est devenu un lien majeur. Je pense qu'on va avoir à peu près une 40aine de présentations qui vont parler des liens entre les changements climatiques et toute une panoplie d'événements météorologiques ponctuels. La façon simple de le dire, c'est que tout ça, en fait, presque tout ça, est assez cohérent avec un climat qui change et qui affecte la probabilité, l'intensité, la durée de la majorité de ces types d'événements extrêmes-là. Naturellement, on ne peut pas faire un lien direct avec un événement extrême parce que c'est un peu comme si on a, si je peux peut-être comparer, là, on a une soupe aux tomates, puis on rajoute un peu de chili dedans, puis là, on mélange ça plus ou moins bien. Puis après, quand on goûte, bien, y a des bouts qui goûtent parfois très épicés, d'autres qui goûtent un peu moins épicés. Donc, l'épice ressemble, c'est un peu l'illustration du changement climatique, mais qui vient se mêler dans une soupe qui est celle du climat naturel, de la variabilité naturelle de notre météo qui est très grande, etc. Mais donc, dans la plupart de cas, les inondations, les ouragans, les feux de forêt, etc., tout ça offre un patron cohérent d'un climat qui change, non pas juste à l'échelle planétaire, mais ça se traduit aussi aux échelles continentales, aux échelles des régions, puis aux échelles locales.
Mais est-ce que ça veut dire que, je résume là, ces événements bon, extrêmes, ça ne veut pas dire qu'on va les voir tous les ans, mais qu'on risque d'en voir de plus en plus souvent.
Exact. Et dans bien des cas, ce qu'on dit, c'est que c'est un avant-goût de ce qui va devenir beaucoup plus commun et régulier au cours des prochaines décennies. Et en fait, je dis au cours des prochaines décennies, mais honnêtement, la méga canicule de l'Europe en 2003 elle va peut-être se passer au Québec l'été prochain. On ne peut pas vous le prédire. Ce qu'on dit, c'est que la probabilité de voir une méga canicule sur le sud du Québec l'été prochain puis l'autre été va en augmentant. Alors, à un moment donné, ça va arriver. Tout le monde devrait être au courant. Tout le monde devrait commencer à se préparer à ça pour éviter... puis encore là, on va avoir, dans un de nos panels, on va avoir un invité de France qui va venir nous partager son expérience d'avoir vécu la canicule 2003 dans les hôpitaux français. Et ce qu'il va venir nous dire, c'est voici ce qu'on a appris de cet événement-là, puis voici ce que malheureusement, on n'a pas encore appris dans cet événement-là. Et prière, s'il vous plaît, n'attendez pas que ça vous arrive avant de vous préparer. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre des feux de forêt à Fort McMurray, des inondations à Calgary. Puis en passant, on organisait le symposium un peu avant les inondations du Québec. On avait confirmé la participation de quelqu'un pour les inondations de Calgary. Et puis, voilà, le Québec a aussi vécu des inondations. Donc, là-dessus, on est quasiment presque un petit peu trop tard par rapport à cet événement-là. Il va y avoir le maire de Percé aussi qui va venir partager ce qu'il a vécu l'hiver dernier, alors que des tempêtes côtières. Il n'y avait presque pas de glace dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis, une grosse tempête est arrivée. Les vagues ont tout arraché la promenade de Percé.
Mais ça a un impact sur la végétation, on comprend, mais sur les espèces animales, sur l'écosystème au complet, là.
Oui, en fait, ça a des impacts sur les écosystèmes, la biodiversité, sur l'environnement bâti, les infrastructures qui sont dans le chemin de la météo ou des intempéries. Ça a un impact sur, naturellement, à cause de ça, sur la santé, la sécurité des populations. Puis finalement, ça a aussi des impacts économiques, là. Notre forêt est en train de changer. Il y a des impacts sur la production ou la demande d'énergie. Puis en plus, on a des lignes de transport qui partent du Grand Nord puis qui vont vers le Sud qui sont à risque de feux de forêt ou des trucs de genre. Donc, il y a toute une panoplie d'impacts qu'on, nous, on les catégorise en général sur l'impact sur l'environnement naturel, l'environnement bâti, l'activité économique, la santé, sécurité des populations. La météo et le climat, là, ça affecte plein de choses, hein, les opérations quotidiennes.
En terminant, qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont des climato-sceptiques là, qui vont m'écrire après l'émission en disant « il y a toujours eu des périodes de réchauffement, c'est l'histoire de la planète ». L'humain a peu de choses à voir dans ça. Il y en a moins, là, je pense, mais il demeure quand même. Il y en a un qui est à la présidence des États-Unis, là, ce qui n'est pas rien. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Bien, je leur invite à aller lire la littérature scientifique qui dit, étude après étude, systématiquement depuis à peu près 25 ans, que le climat... Tu sais, il y a 25 ans, on disait, le climat semble changer, il faut plus de données, il faut plus d'études, etc. Tout ça a été fait. Les données s'accumulent, la science l'accumule, le signal va toujours dans la même direction. Alors moi, mon impression, c'est que ceux qui sont sceptiques aujourd'hui, après 25 ans de tout ça, vont fort probablement rester sceptiques pour encore les 10 prochaines années, puis jusqu'à temps qu'ils meurent, j'imagine, là, parce que les données scientifiques sont claires et les événements le traduit. J'étais à l'UPA avec des producteurs agricoles lundi, puis c'était assez frappant de voir comment il y avait unanimité, même dans ce milieu-là. Alors donc, d'un côté, tu as le producteur agricole, puis tu as le scientifique qu'on blâme souvent d'être dans sa tour d'ivoire. Tout le monde s'entend là-dessus.
Donc, on voit les mêmes choses.
Oui, on voit les mêmes choses. Mmh. Il y en a une, c'est concrète, il y en a une, c'est scientifique.
Monsieur Bourque, merci beaucoup d'être venu ce matin.
C'est un grand plaisir.
Alain Bourque, le directeur général d'Ouranos, donc ce 7e symposium qui se déroule à Montréal du 15 au 17 novembre. 9h40, pause, on revient après pour la suite.